Il est 7h, on va faire tout de suite un point sur l'information. Et ce matin, pour commencer cette journée, on commence avec vous d'ailleurs. Oui. Anne Lorchouin, vous êtes là avec nous jusqu'à 9h. C'est parti, bonjour.
Bonjour à tous. Retour sur l'enquête après l'attentat commis mardi à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir comment les deux jeunes terroristes ont pu se rencontrer. Pendant qu'émerge un débat sur le traitement médiatique de ces attentats, faut-il ou non donner nom et image de leurs auteurs? On en parle également avec vous, Olivia.
Mais oui, réflexion qu'on a ouverte aussi ici à France Culture et que de nombreux journaux traite, ouvre ce matin. On en parlera nous avec Alexandra Schwarzbrot, la directrice adjointe de Libération, avec Christian Macarian de L'Express et avec l'historien des images André Günther à partir de 7h40 à 7h20. Nos invités réagiront d'abord aux unes de la presse.
Nous irons à Philadelphie où Hillary Clinton vient de terminer son discours d'investiture. Sur le front de l'emploi, l'Amérique n'est pas à son meilleur, a-t-elle déclaré, avant de tacler sévèrement son rival Donald Trump. Et puis à Alep, en Syrie, la situation humanitaire est dramatique. Russes et Syriens proposent d'ouvrir des corridors sanitaires. Plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage hier soir au père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray où le prêtre a été assassiné mardi par deux jeunes djihadistes. 3500 personnes se sont rassemblées dans un parc de la commune. Une cérémonie civile avant les obsèques religieuses qui auront lieu mardi prochain dans la cathédrale de Rouen. L'enquête, elle, continue et a confirmé hier que les auteurs de cette prise d'otage meurtrière avaient tous les deux eu affaire à la justice ou à la police. Adèle Kermiche était donc sous surveillance électronique. Quant à Abdelmalik Petitjean, 19 ans, originaire des Vosges, il était également fiché par les renseignements depuis un bref passage en Turquie au mois de juin. 4 personnes de l'entourage de ce dernier sont en garde à vue. Par ailleurs, des enregistrements saisis au domicile d'Adèle Kermiche témoignent de la préparation de l'attentat. Le point avec Corinne Audouin.
Adèle Kermiche et Abdelmalik Petitjean se sont filmés ensemble en train de prêter allégeance au chef de l'organisation État islamique. Mais on ignore comment les deux hommes qui vivaient à 700 km de distance sont entrés en contact. Chacun de leur côté, ils avaient tenté sans succès de rallier la Syrie. En mars puis en mai 2015, Kermiche se fait refouler à la frontière turque. Petitjean fait lui un aller-retour à Istanbul en juin dernier. Ont-ils été téléguidés depuis la Syrie dans des fichiers audio saisis en perquisition et que s'est procuré l'Express, Adèle Kermiche évoque son mentor, un homme rencontré à Fleury-Mérogis qui lui aurait donné des idées. Ces messages ont été postés via l'application cryptée Telegram. Une semaine avant l'attaque, Kermiche explique à ses contacts qu'il vaut mieux attaquer en France, vu la difficulté à se rendre en Syrie. Il se connecte une dernière fois, une heure avant le drame, pour inviter à partager en masse ce qui va suivre. Adèle Kermiche ne postera finalement aucune image de l'attentat, stoppée sans doute par l'intervention de la BRI.
Corinne Audouin, depuis cet attentat, un débat se fait jour qui divise notamment la presse et pour cause, il concerne le traitement médiatique du terrorisme dans notre pays. Faut-il ou non cacher le nom et le visage des terroristes? Un débat qui agite aussi le monde politique. Deux députés de la droite et du centre proposent en effet une loi en ce sens, pour ne pas glorifier les ennemis de la République. Et puis une pétition en ligne a déjà recueilli 100 000 signataires pour demander au CSA d'intervenir. Quoi qu'il en soit, imposer par la loi une contrainte de ce genre aux médias serait antidémocratique, selon en tout cas le président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, Patrick Evenot. Il est interrogé par Stéphane Robert.
Ce n'est pas aux politiques ou aux politiques par l'intermédiaire du CSA ou d'une autre instance administrative, dans une démocratie, de réglementer la liberté d'informer et le droit du public à être informé. Ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on rentre dans cette forme de censure, d'autocensure, on peut aller très très loin après l'état d'urgence et pendant très longtemps. Donc ça risque de poser un problème tout à fait considérable pour la démocratie elle-même, qui est le sel même de ce qui fait qu'on résiste au terrorisme. De toute façon, les médias y réfléchissent en permanence et on voit bien qu'il y a un clivage, Libération contre Le Monde, France Télévisions contre BFM, enfin bon, etc. Et il y a des clivages et il faut en discuter collectivement à l'intérieur des rédactions de l'ensemble des médias professionnels.
Et le fait qu'il y ait des prises de position différentes selon les médias, est-ce que ça témoigne selon vous du fait qu'il y ait des médias plus responsables que d'autres ?
Non, c'est pas une question de responsabilité. Je vois par exemple que Le Figaro et Libération sont dans le même camp alors que La Croix et Le Monde sont dans l'autre camp, si je puis dire. Vous voyez que ce sont quatre journaux responsables. Bon, France Télévisions est d'un côté, BFM de l'autre. Je crois que c'est pas une question de responsabilité. C'est plus une question de sensibilité et de gens qui se sentent plus ou moins menacés, soit par leurs lecteurs ou leurs auditeurs, soit par les pouvoirs politiques et notamment le CSA pour les télévisions.
Une semaine tout juste après son rival républicain, Hillary Clinton accepte officiellement l'investiture du Parti démocrate à l'élection présidentielle américaine. La candidate vient de terminer son discours d'investiture à Philadelphie lors de la convention démocrate et elle a ciblé à la fois les défis intérieurs des États-Unis, le chômage notamment, et les menaces extérieures, tout en critiquant également vertement son adversaire Donald Trump.
Ne laissez personne vous dire que notre pays est faible. Nous ne le sommes pas. Ne laissez personne vous dire que nous n'avons pas ce qu'il faut. Ce n'est pas vrai. Et surtout, ne croyez pas quelqu'un qui vous promet de régler les choses tout seul. Parce que c'était les mots de Donald Trump à Cleveland. Et il devrait résonner comme un signal d'alarme. Vraiment, je vais régler tout, tout seul. Est-ce qu'il n'oublie pas les soldats sur la ligne de front, les policiers et les pompiers qui font face aux dangers, les médecins et les infirmières qui s'occupent de nous, les enseignants qui changent nos vies? Les Américains ne disent pas « moi tout seul, je vais m'en occuper ». Ils disent « nous allons régler les problèmes ensemble ».
Hillary Clinton, des propos recueillis par notre envoyé spécial Frédéric Carbone, l'investiture d'Hillary Clinton. On y reviendra dans notre journal de 8 heures. En Syrie, 200 000 Syriens sont toujours pris au piège des combats qui se déroulent à Alep entre les forces de Bachar al-Assad et celles des rebelles. La Syrie et la Russie ont annoncé hier qu'elles allaient mettre en place une opération humanitaire de grande envergure, à savoir des corridors dans les villes pour les civils et les combattants prêts à déposer les armes. Et de fait, la situation humanitaire à Alep est catastrophique. Pablo Marco Blanco dirige les opérations de Médecins sans frontières en Syrie. Il est interrogé à ce sujet par Hélène Masquelier.
Les jours ci sont, à mon avis, les jours les plus horrifiants que la population d'Alep a vécu dès le début de la guerre. Les bombardements sur les civils d'Alep, les hôpitaux qui ont été attaqués directement par les bombardements. Un des hôpitaux les plus importants d'Alep, qui est spécialisé en chirurgie, qui a été déjà attaqué, bombardé, et il y a un mois, le staff a essayé de renvoyer les patients, de le référer à un autre hôpital, à un moment où cet autre hôpital était aussi attaqué par le bombardement. Qu'il n'y a aucune possibilité ni d'évacuer les blessés ou les malades graves, et non plus de ravitailler les hôpitaux avec des médicaments. Et il faut absolument que les blessés et les malades puissent évacuer l'Alep vers des hôpitaux qui peuvent leur donner un soin dont ils ont besoin. Et donc cette proposition de couloir, il n'y a pas encore de détails, et on attend une proposition claire du côté du gouvernement russe et syrien pour voir si vraiment ceci peut être une vraie solution pour la population. Et bien sûr, cette offre à une partie de la population de partir ne peut pas être un alibi. Le gouvernement syrien et le gouvernement russe doivent arrêter ce carnage de la population civile, arrêter cette horreur. Ce qui se passe à Alep ce jour-là, ça dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Le chef des opérations de MSF en Syrie, Pablo Marco Blanco. On termine par le temps de ce vendredi 29 juillet. Mossad sur une grande moitié nord-ouest ce matin, de l'Alsace au nord de l'Aquitaine. De la pluie possible près des frontières du nord avant une amélioration cet après-midi sur le quart sud-est. Soleil brillant. Les températures, elles baissent un peu ce matin de 13 à 18 degrés et de 17 à 22 sur la Méditerranée. Cet après-midi, comptez de 19 à 29 degrés au nord de la Loire jusqu'à 32 voire 36 degrés en Vallée du Rhône.
Merci beaucoup Anne Lorchouin.